Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. En Espagne, le socialiste Pedro Sanchez peut compter sur le soutien tacite des indépendantistes catalans pour se maintenir au pouvoir. L'ERC s'abstiendra lors du vote d'investiture la semaine prochaine. La correspondance à Madrid de Mathieu Le Taillac. Autre scénario en Autriche où les conservateurs formeront une coalition avec les Verts. Le futur chancelier Sébastien Kurz a imposé aux écologistes ses positions radicales sur l'immigration. Le reportage à Vienne d'Isorias. En France, la grève contre la réforme des retraites entre demain dans son 30e jour. Le collectif SOS Retraite, qui regroupe des professions libérales, entre dans le conflit. Nous en parlerons avec l'un de ses porte-parole, Jérôme Marty, du syndicat de médecins UFML. La sortie de l'impasse politique est proche en Espagne. Le socialiste Pedro Sanchez dispose ce soir des soutiens nécessaires pour se maintenir à la tête du gouvernement. Le vote d'investiture aura lieu mardi prochain au Parlement espagnol et les indépendantistes catalans de gauche de l'ERC ont annoncé tout à l'heure qu'ils comptaient s'abstenir lors de ce vote. Une abstention décisive pour Pedro Sanchez qui pourra ainsi former un gouvernement de coalition avec Podemos, la gauche radicale espagnole. La correspondance de Mathieu Le Taillac.
Cela faisait des semaines qu'ils négociaient très discrètement. Ils sont finalement parvenus à un accord. Du côté de ERC, les indépendantistes catalans de gauche, c'est le vice-président du gouvernement catalan, Pere Aragonès, qui a expliqué la décision de son parti. Les 13 députés de ERC à Madrid s'abstiendront, ce qui devrait suffire à Pedro Sanchez pour obtenir plus de votes oui que de non, et donc remporter l'investiture lors du deuxième tour mardi prochain. En échange, ERC a obtenu ce qu'ils appellent une table de négociation entre le gouvernement espagnol et le gouvernement régional catalan, une formule que le Parti Socialiste, la formation de Sanchez, a expliquée de son côté par un communiqué. Il s'agit, dit le texte, de dialoguer et de négocier sans autre limite que les principes de l'organisation juridique démocratique, fin de citation, et le fruit de ces négociations, l'accord auquel parviendront peut-être gouvernements espagnols et catalans, devrait être soumis à l'avis des Catalans par le biais d'une consultation. Côté ERC, on se félicite de la formule parce qu'elle ne prévoit d'autre limite que celle de la loi. Les indépendantistes disent déjà qu'ils défendront l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Les socialistes, eux, auront fort à faire pour se défendre de l'opposition de droite, prompte à accuser la gauche de brader l'unité du pays.
Mathieu Le Taillac, correspondant à Madrid. Sortie de crise également en Autriche, où là le paysage politique est différent. Les conservateurs de Sébastien Kurz vont gouverner avec les Verts. Une alliance inédite où la droite détiendra 10 ministères, dont l'intérieur, les affaires étrangères et les finances. Les écologistes, eux, héritent de 4 portefeuilles, dont un grand ministère de l'environnement. Sébastien Kurz change donc de partenaire de coalition. Lui qui a gouverné pendant 2 ans avec l'extrême droite autrichienne. Mais il reste intraitable sur les questions migratoires, comme il l'a expliqué aujourd'hui lors de la présentation du futur gouvernement. Le reportage à Vienne d'Isorias.
Sébastien Kurz s'apprête à redevenir chancelier et à 33 ans le plus jeune dirigeant d'Europe après l'accord conclu avec les écologistes, un accord dans lequel le jeune conservateur a imposé sa vision restrictive de l'immigration, comme il l'a détaillé cet après-midi.
La politique migratoire restera un élément central de ma politique. Cela signifie que nous allons nous engager à l'échelle européenne pour la protection des frontières extérieures. Les personnes qui seront sauvées en Méditerranée doivent être renvoyées vers les pays d'origine qui sont sûrs, vers des États tiers ou vers les pays de transit s'ils sont sécurisés.
Pour les Verts, la priorité reste la lutte contre le changement climatique et sur ce point, leur chef Werner Kogler, futur vice-chancelier, semble satisfait des avancées obtenues.
Une première réforme conduira à ce que l'avion devienne plus cher. Les transports en commun devront aussi être plus abordables. Et nous devons atteindre la neutralité carbone en Autriche dès 2040. Nous pouvons apporter une contribution massive en Europe.
Les écologistes doivent encore formellement approuver cet accord lors d'un congrès extraordinaire ce samedi.
Isorias, correspondant en Autriche. Interpol a délivré une notice rouge visant Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan, est arrivé lundi au Liban après avoir fui le Japon et sa justice. Les autorités libanaises ont reçu cette notice rouge d'Interpol. Il ne s'agit pas d'un mandat d'arrêt international à proprement parler, mais d'une demande d'arrestation qui n'a aucun caractère contraignant. Carlos Ghosn doit tenir une conférence de presse mercredi prochain à Beyrouth. La grève contre la réforme des retraites est devenue aujourd'hui le conflit social le plus long dans les transports depuis 1986. Déjà 29 jours de perturbations à la SNCF et à la RATP. La SNCF, où le taux de grévistes est tombé à 6,9%, son plus bas niveau depuis le 5 décembre. La RATP, elle, a choisi de ne pas communiquer sur le nombre de grévistes dans le métro et le RER parisien. Lors de ses vœux mardi, Emmanuel Macron avait chargé Édouard Philippe de trouver un compromis avec les syndicat réformiste. Le travail commence demain. Le Premier ministre réunira à Matignon les quatre ministres concernés par la réforme des retraites, Jean-Jérôme Bertolus.
Oui, une réunion à Matignon avec les ministres Agnès Buzyn, Elisabeth Borne, les secrétaires d'État Jean-Baptiste Djebbari et Laurent Pietraszewski. Édouard Philippe veut d'abord faire un point sur la grève des transports. Un proche du Premier ministre juge, je cite, que les nouvelles sont plutôt bonnes, le personnel en grève se remettant progressivement au travail. À Matignon, on insiste, pas question de renégocier la suppression des régimes spéciaux. Il n'y a plus de grain à moudre à la SNCF et à la RATP. Cette réunion est aussi destinée à caler le nouveau round de concertation avec les syndicats qui se tiendra mardi au ministère du Travail. D'ici là, le Premier ministre va s'entretenir avec les partenaires sociaux sur la question de l'équilibre général du futur système. Le Premier ministre n'a jamais dit c'est l'âge pivot et rien d'autre, souligne-t-on dans son entourage. À Matignon, on n'exclut pas que la CFDT, l'UNSA et la CFTC fassent des propositions. Édouard Philippe n'a pas encore arrêté quand il prendra la parole la semaine prochaine. Un choix qui sera sans doute dicté par la teneur de ses contacts avec la CFDT et la possibilité de parvenir ou non à un compromis. Seule certitude, Matignon veut aller vite avec toujours en ligne de mire le Conseil des ministres du 22 janvier.
Jean-Jérôme Bertolus, merci. Un mot sur les prévisions de trafic demain pour ce 30e jour de grève. À la SNCF, deux tiers des TGV et la moitié des TER circuleront. À la RATP, une seule ligne du métro parisien sera fermée, mais les autres lignes fonctionneront partiellement, souvent aux heures de pointe uniquement. Demain également, le collectif SOS Retraite se mobilise à son tour contre la réforme du gouvernement. Un collectif qui regroupe des professions libérales qui disposent d'un régime autonome. On y trouve notamment les avocats, les médecins, les pilotes de ligne ou le personnel aérien navigant. On en parle avec l'invité de ce journal, Jérôme Marty, président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Bonsoir.
Bonsoir.
Jérôme Marty, le collectif SOS Retraite appelle à une grève glissante à partir de demain. Qu'entendez-vous précisément par grève glissante ?
Ben, on est un collectif de plusieurs professions libérales et indépendantes, 18 structures, et donc on a décidé de faire une première grève, parce que d'autres suivront, du 3 au 6, on a appelé ça glissante, parce que chaque structure choisit un petit peu le jour ou la période au sein de ce 3 au 6, à laquelle elle va arrêter son activité, à savoir par exemple les médecins, on a pris le 3 et le 6, les avocats, eux, commenceront le 6. L'idée, c'est de prendre un peu le relais de tout ce qui s'est fait maintenant, pour rappeler qu'il y a d'autres professions qui sont profondément touchées par cette réforme, professions qui d'ailleurs, au vu de leur système de retraite, ne devraient pas du tout être impactées par cette réforme, puisque leurs régimes sont des régimes autonomes et absolument pas des régimes spéciaux.
Vous, au sein du collectif SOS Retraite, vous défendez le principe de régime spécifique, de régime autonome selon les professions.
Oui. Ce sont des régimes autonomes. Nous, nous avons été exclus, si vous voulez, du régime général quand il a été fondé. Et nous avons donc fait des caisses autonomes, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité professionnelle. Les professionnels paient pour les professionnels de chaque profession, en quelque sorte, quoi. Nous avons pour les médecins, d'ailleurs, un système à point, déjà, hein, puisque nous avons une caisse nationale d'assurance des professions libérales, qui est un petit peu la caisse universelle de toutes les professions libérales. Et au-dessus de ça, nous avons deux caisses, une caisse complémentaire et une caisse supplémentaire.
Mais dans quelle mesure ce système participe à la solidarité nationale, puisqu'on parle de régime autonome ?
Ben, ce système, il y participe d'une part parce que nous avons une solidarité financière vis-à-vis de régimes déficitaires, mais au-delà de ça, ce sont les médecins qui paient pour les médecins. C'est ainsi que nous avons mis en place des réserves qui nous permettent de faire face au trou démographique qui a été créé, vous le savez, par les politiques sanitaires successives. Nous avons 7 milliards de réserves et ces réserves nous permettent d'assurer les retraites des médecins alors qu'il y a beaucoup moins de cotisants à cause de ce fameux trou démographique. Il est hors de question que demain, ces réserves passent en quelque sorte dans le pot général, ce qui mettrait en péril une part, d'abord les médecins qui sont à la retraite actuellement ou qui vont prendre leur retraite, et puis ensuite, au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, pour les médecins encore une fois, c'est que notre code déontologie même a un article qui nous demande d'avoir une solidarité professionnelle. Et c'est cela que nous défendons. Force est de constater en matière médicale que lorsque l'on laisse l'État gérer, ça se passe très mal. Aujourd'hui, vous le voyez, de l'hôpital à la ville, nous avons une médecine qui est en crise profonde, comme jamais elle n'en a connu. Et tout ça parce qu'on a laissé l'État gérer et Bercy gérer. Or, la médecine est chose trop sérieuse pour être laissée aux politiques. Donc on se dit que si en plus on étatise nos régimes de retraite, ça sera en quelque sorte le coup de grâce qui va être porté à des professions qui sont aujourd'hui extrêmement fragilisées. Des kinés aux infirmières, des infirmières aux médecins, aux podologues, aux orthophonistes, etc. C'est tout un monde de la santé qui aujourd'hui est fragilisé et qui ne peut pas prendre le risque de rentrer dans une réforme qui risquerait de fragiliser un peu plus ces professions.
Jérôme Marty, est-ce que des négociations sont en cours avec le gouvernement, vous concernant, vous les médecins ?
Oui, il y a des négociations qui vont être, vous savez que le gouvernement reçoit les partenaires sociaux à partir du 7. On pense légitimement que rien ne débouchera de ça, et c'est en ce sens que nous avons lancé un mot d'ordre d'union vis-à-vis de tous les syndicats de la profession, et que nous demandons à ce que le directeur de notre caisse complémentaire prenne la tête de ce mouvement unitaire, lance des mouvements tout au long du mois de janvier, le point d'orgue étant ce que le collectif SOS Retraite a demandé, c'est-à-dire une grève illimitée si aucun pas du gouvernement est fait vers les régimes autonomes, une grève illimitée à partir du 3 février.
Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'avancée de la part du gouvernement ? Parce qu'a priori, les discussions n'ont pas véritablement commencé.
Mais ça fait 2 ans, je vous rappelle que cette réforme a été présentée il y a 2 ans, que M. Delevoye, quand il était commissaire de la réforme, a rencontré l'ensemble des structures pendant 18 mois, qu'il n'y a eu strictement aucune négociation, mais juste des explications de la réforme et des présentations de PowerPoint, que nos directeurs de caisses complémentaires respectives, qu'il s'agisse des caisses complémentaires, des kinés, des infirmières, des avocats, etc., ont été mis dehors de ces discussions. Donc voilà comment ce gouvernement a négocié jusque-là. Au bout de ce temps, le président Macron a dit qu'il fallait une grande consultation nationale et M. Delevoye a mangé son chapeau. On l'a fait rentrer au ministère et puis maintenant il est dehors, on sait, on connaît dans les circonstances. Et on nous dit, on va commencer à discuter. Enfin, on se fout de nous, ça fait 2 ans que ça dure.
Jérôme Marty, au sein de SOS Retraite, il y a plusieurs syndicats de personnel navigant, ainsi que le SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne, qui ont décidé de suspendre leur appel à la grève après avoir obtenu des garanties sur le maintien de leur caisse de retraite autonome. C'est aussi votre objectif, finalement ?
Ça prouve qu'on peut faire avancer les choses. Ça prouve qu'il y a une certaine reconnaissance de la spécificité de ces régimes autonomes et que le gouvernement peut entendre un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à mettre la pression. Entre parenthèses, il y a toujours des syndicats de pilotes et de PNC, de personnel navigant, au sein de SOS Retraite actuellement. Donc tous n'ont pas trouvé encore leur compte dans ce qui a été en quelque sorte mis en place par le gouvernement.
Jérôme Marty du collectif SOS Retraite, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Gabriel Matzneff ne regrette rien. L'écrivain mis en cause pour ses pratiques pédophiles assumées a envoyé un long texte à l'hebdomadaire L'Express, une démarche qui intervient au moment où sort en librairie Le Consentement, le livre où Vanessa Springora raconte sa liaison toxique avec Matzneff. Elle avait à peine 14 ans, il en avait 50. Jacqueline Petrose, l'écrivain, n'a pas du tout l'intention de s'excuser.
Gabriel Matzneff commence par la publication de 2 lettres d'amour avec 2 de ses conquêtes dont il a modifié les prénoms. Puis il se défend, affirmant que Vanessa Springora veut faire de lui un pervers, un salaud, un manipulateur, un prédateur, ce qu'il rejette évidemment. L'écrivain s'offusque de ce qu'il appelle un affreux portrait qui n'est pas lui et se retranche derrière ce qu'il considère comme une histoire d'amour. Gabriel Matzneff en appelle aux lettres que la très jeune Vanessa lui écrivait, y compris celle de la rupture. Il renvoie même au journal qu'il tenait à l'époque, soulignant qu'il a été publié chez Gallimard, précisant même son édition en poche. Après un long passage reprenant ce fameux journal, Gabriel Matzneff continue en affirmant que cet amour était passionné et que le livre de Vanessa Springora est un coup de poignard qui a pour but, je le cite, de le précipiter dans le chaudron maudit où ces derniers temps furent jetés Hamilton, Woody Allen et Roman Polanski. S'ensuit un poème et quasiment une déclaration d'amour, estimant que la très jeune fille qui était alors Vanessa Bessa a eu tort de rompre. En exergue de ce long texte touffu et plein de grandes envolées, l'Express explique en quelques lignes que cette publication ne vaut pas caution.
Jacqueline Pétrose, merci. Vanessa Springora sera l'invitée des Matins de France Culture demain. Elle répondra aux questions de Guillaume Erner à partir de 7h40. Le temps demain tournera à la pluie sur presque tout le pays. Les précipitations seront faibles en général mais persistantes. En revanche, le soleil s'imposera autour de la Méditerranée. Le matin, le thermomètre oscillera entre 1 et 8 degrés selon les régions. L'après-midi, les températures iront de 6 à 15 degrés du nord-est aux régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.